à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce beau jour de Noël. Il sera question de Jésus-Christ, c'est bien normal, de Jésus. Qui est-il? Qui est Jésus-Christ? On obtient tellement de réponses à cette question. Il y a même des livres qui ont été publiés là-dessus, plusieurs. C'est le titre, Qui est Jésus-Christ? Il s'en est publié je ne sais combien. Mais je vais aller à la recherche aujourd'hui de Jésus-Christ à travers son meilleur ami, Saint Jean. C'est sa fête, Saint Jean, dans 2 jours. Et comme je l'ai célébré l'an dernier à Rencontre spirituelle, en faisant une belle émission d'une heure, cette année, j'ai osé le remplacer après-demain par quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, ça va être Jésus-Christ. En ce jour où je vous souhaite à tous vraiment un joyeux Noël avec lui, vraiment celui que Saint Jean nous a révélé dans son évangile. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Une des plus belles paroles de Saint Jean, c'est quand il dit « Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ». Ils ont touché le Verbe de vie. On tombe dans un monde tellement d'émerveillement qu'on reste pantois. D'ailleurs, dans un très beau texte du père Yves Raguin, cet homme qui a vécu longtemps en Orient, il nous raconte que c'est un jésuite, ceux qui ont vécu pendant des années au contact des religions non chrétiennes, comme le bouddhisme, peuvent souvent comprendre beaucoup mieux la portée de l'incarnation. C'est aujourd'hui la fête, évidemment, vous le savez tous, de l'incarnation. Tous les efforts qu'on peut faire là, pour réduire l'espèce de contraire, d'opposition qui existe fondamentalement là, à l'intérieur de l'incarnation. Vous savez, Dieu qui s'incarne. Moi, je dois vous avouer que j'ai fait cette émission un peu pour demander pardon à Dieu d'avoir cessé de croire à cette incarnation pendant quelques années. Je n'y arrivais plus. Et j'ai fait cette émission aujourd'hui aussi pour aider tous ceux qui ont de la difficulté à y croire. Parce que tous les efforts que l'on peut faire pour réduire ça, cette opposition-là, à l'intérieur de l'incarnation, ça lui enlève sa force et sa vérité. Faut pas faire d'efforts. Si on fait du Christ un homme que le Père a aimé d'une manière spéciale, on entend ça souvent, Ah oui, Dieu a aimé le Christ d'une manière spéciale, puis il en a fait sa parole, après coup, sans qu'il soit Dieu lui-même, par exemple. Faut pas exagérer, dit-on. Mais donc, quand on dit ça, puis je l'ai dit moi-même autrefois, mais on retombe dans une théorie qui nous apaise peut-être l'esprit pour un certain temps, mais on ne se rend pas compte de la réalité. D'ailleurs, le père Raguin, qui connaît bien le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, il dit, se sont heurtés au problème de la connaissance de l'absolu. C'est ça la question. Jésus, qui est l'absolu, il est Dieu, vient se faire connaître. Il s'est fait connaître particulièrement Saint Jean. Et puis, ces religions-là se sont heurtées à ça, au fond. Fondamentalement. Parce que la révélation que l'absolu fait de lui-même en Jésus-Christ, là, c'est pas facile, mais c'est si beau. C'est aujourd'hui la fête de cette beauté inouïe de notre foi. Toutes les religions, au fond, ont conçu une sorte de révélation de l'absolu par des signes, par des images, par des personnalisations aussi, comme les grandes divinités de l'hindouisme, Brahma, Vishnu, Shiva, on entend parler de ça. Mais ces manifestations de l'absolu laissent les gens eux-mêmes loin des prises de notre connaissance à nous, qui adhérons à la divinité de Jésus-Christ, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance. Car l'incarnation vaut justement parce qu'elle est incompréhensible. Vous direz, oui, ça vaut parce qu'elle est incompréhensible dans un sens. Mais oui. Il ne peut pas en être autrement, d'ailleurs. car l'incarnation exprime, quoi, un acte de Dieu. Et les actes de Dieu sont souvent incompréhensibles. Comprenez-vous, vous, la création? Comprenez-vous ça, vous, une fleur qui pousse? Comprenez-vous ça, vous, un bébé qui naît? Le Christ est Dieu et homme, et il faut que le Christ soit tout Dieu pour pouvoir dire qui est Dieu. Et il faut qu'il soit tout homme pour pouvoir nous le dire, pour qu'il soit compris. La lumière sur ce mystère étrange de ce Dieu qui se fait homme, mais la lumière, elle jaillit. Elle jaillit de l'apparente contradiction des deux mots Dieu et homme. À force de contempler cette contradiction-là dans le fond de notre cœur, quand on est à genoux devant la crèche, à l'église, tout simplement comme des enfants que nous étions, on en voit jaillir une lumière si on réfléchit au fond de notre cœur et si on se laisse prendre par l'Esprit-Saint. On en voit jaillir une lumière qui est la lumière même de Dieu, en laquelle les contradictions s'annulent, se résolvent. Moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai perdu la foi, et je l'ai retrouvée comme ça. Parce que j'ai plongé. Disons que j'ai sauté dans les bras de Dieu. On peut prendre l'expression du mystère de l'incarnation, puis la retourner dans tous les sens. Ce mystère nous apparaîtra toujours comme une contradiction. C'est contradictoire. Mais, c'est ça l'important, l'incarnation est un fait. C'est une réalité vécue par quelqu'un que nous appelons le Christ, Jésus. Le Christ, il a manifesté son mystère à qui? À ses disciples, des hommes comme nous autres, des hommes simples. Il les a pris très simples, des pêcheurs de Galilée, des gens ordinaires. Et c'est d'après leur témoignage que les chrétiens, ou en travaillant beaucoup là-dessus, ben, ils ont explicité dans un langage humain ce qu'ils avaient connu par expérience. Faut jamais oublier que les théologiens, là, ils ont pas inventé ce qu'on appelle le dogme de la Trinité. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour le plaisir d'élaborer, là, quelque chose d'extraordinaire. Non. Toute la théologie de la Trinité qui fait que Jésus est Dieu, Fils éternel de Dieu. Eh bien, cette théologie-là, elle est née d'une expérience qui est faite par des hommes comme nous, il y a 2000 ans, et qui n'étaient pas des théologiens. En langage vulgaire, c'était pas des bols. Non. Du monde simple et vrai, équilibré et authentique. La plupart n'étaient, je vous l'ai dit, que des pêcheurs de Galilée. Ils ont rencontré quelqu'un, oui, quelqu'un qui les a introduits dans son intimité. Avez-vous été introduit dans l'intimité du cœur de Jésus? C'est si doux. Et c'est de cette expérience qu'ils ont saisi qu'il était Dieu. Et celui des apôtres qui nous a livré son expérience avec le plus de force, c'est Jean l'évangéliste, dont c'est la fête après-demain. Je vous réfère à la cassette de l'émission que j'ai faite il y a un an, le 27 décembre. Elle est disponible. Ce que Jean, lui, Saint Jean, cet ami si cher de Jésus, a vu et touché, c'est cet homme qui était de Nazareth, qui s'appelait Jésus. Et pour Jean, ben cet homme qui l'avait suivi, parce que l'autre Jean, là, le Baptiste, lui avait dit qu'il était l'agneau de Dieu, eh bien cet homme avait pris peu à peu de la profondeur. Et cette découverte s'est pas faite d'un seul coup. Ça s'est fait très lentement. Et c'est pour ça qu'on vit vieux, peut-être, pour pouvoir faire la découverte lentement. C'est l'avantage de vivre peut-être jusqu'à 70 ans. Parce que ça se fait par lente réflexion et par des illuminations soudaines, tout à coup, au sein de l'Église. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, ils étaient restés longtemps ensemble. Jean avait beaucoup écouté, puis il avait aussi probablement beaucoup parlé. Mais c'est à partir de cette première rencontre que la relation personnelle entre Jésus et Jean s'est développée, comme une expérience humaine. Il y eut dès les débuts, on peut l'imaginer dans cette relation, une intimité qui ne semble pas avoir existé dans les autres. La relation était différente pour chacun. Et jamais Jésus n'a eu envie de traiter ses apôtres tous de la même manière. Il ne nous traite pas de la même manière, d'ailleurs. Comme dans les récits de conversion, on voit qu'il y a des cheminements très différents. On adhère à Jésus, on rencontre Jésus différemment. Il connaissait trop bien l'homme, Jésus, et c'est ce qui lui donnait cette extraordinaire souplesse dans les contacts. Dans l'évangile de Jean, on voit bien que c'est l'évangile des rencontres humaines en profondeur. Celui où l'on voit les relations humaines se dégager là des apparences, pour descendre là réellement dans l'intimité. Vous savez, quand on a un ami intime, puis que on rentre dans l'intimité, que c'est cher et c'est doux, des milliards de fois plus doux maintenant quand c'est avec Jésus. Et ceci est trop clair là, pour Saint Jean, et aussi, vous savez, pour Nicodème. Je vous cite les noms, vous les connaissez, la Samaritaine, Marthe et Marie. Souvenez-vous du discours après la scène, le jeudi saint, au soir, toute l'atmosphère du repas. Tout ça, c'est la révélation de relations humaines, des relations qui ont pénétré dans l'intime. C'est seulement à ce niveau-là que le Sauveur, Jésus, peut parler d'amour. Vous souvenez-vous, au début du chapitre 12, là, quand Jean raconte le repas de Béthanie, il est d'une rare discrétion pour parler du geste de Marie et de ce qu'il signifie, elle répand du parfum. Jésus a été invité par ses amis, là, à leur insu, c'est un repas d'adieu, puis le geste de Marie exprime quoi leur affection à tous au fond, mais surtout il dit l'amour de cette femme pour le Christ. Un amour qui n'a de définition dans aucun langage. Et quand Jean arrive au récit du dernier repas, là, le jeudi saint, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Tous les actes du Christ Jésus deviennent la manifestation d'un amour divin qui est exprimé en langage humain, et le terme amour y revient sans cesse, amour du Père et du Fils et de l'Esprit. Et c'est dans ce contexte-là, de la dernière scène, du dernier repas, de la veille de sa mort, que Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Quel beau titre! Saint Jean s'est pas laissé prendre par l'aspect uniquement humain de la relation, là. Comme nous autres, on le fait souvent quand on relit le récit de la dernière sainte, on dit, bien, ils étaient très amis. Non, lui, il a toujours joint à la manifestation humaine d'affection son sens profond. Qu'est-ce que c'est ce sens profond? C'est ce qu'elle révèle. Le Christ s'est engagé dans cette relation humaine autant qu'il le pouvait, suivant la condition d'ailleurs de chacun, avec un discernement qui doit être notre norme à nous autres, et son engagement détermine celui de son interlocuteur, et cela nous apparaît dans le cas de Nicodème, de la Samaritaine, des Juifs, dans la discussion sur le pain de vie, vous vous souvenez au chapitre 6, et dans bien d'autres rencontres, et il force celui qui l'interpelle, ou qui l'interpelle, à se révéler, et c'est alors que le dialogue s'engage, puis que la vérité pénètre. Et nous, quand nous nous révélons à Jésus, c'est ça le sacrement de la réconciliation, au fond, et tout le reste. C'est là qu'il y a une rencontre avec Jésus. Et dans la perfection de la relation, affleure toujours la relation à Dieu. C'est Nicodème qui s'entend dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et le Christ Jésus, lui, en arrive à cette révélation du dessein, du projet de Dieu, car la conversation a déjà pénétré à une telle profondeur que Nicodème peut comprendre, lui. Et ce que le Christ lui dit répond à une expérience de l'amour de Dieu qu'il vient de faire dans ce dialogue avec Jésus. Il y a une manière de reconnaître la beauté de l'Évangile. On entend ça souvent, d'ailleurs. Ils exaltent l'Évangile. Mais ça n'a pas de résultat si ce n'est que de nier la divinité du Christ. Et moi, personnellement, je ne peux plus mener m'aventurer dans ces sentiers-là comme je l'ai fait pendant 5 ans. C'est trop facile de mettre en relief, dans les entretiens de Jésus avec Nicodème, puis avec la Samaritaine, ce qui révèle la profondeur des sentiments humains du Christ. Puis on analyse ces sentiments-là pour faire saisir combien il était homme, homme comme nous tous. Bon, c'est bien dans un sens, mais on le dira divinement humain, ce qui laisse entendre qu'on ne le croit plus Dieu, et que c'est triste. Une telle manière de procéder, c'est fondé sur un présupposé qui est bien faux, à savoir que s'il est vraiment homme, vraiment, il ne peut être Dieu. Non, j'ai donc pensé ça, moi, longtemps. Mettre en lumière ce que le Christ a d'humain, ben alors, ça ne peut que mettre en veilleuse, si j'ose parler ainsi, sa divinité. Or, l'expérience totale de l'Évangile, quand on le lit à genoux, ben peut-être pas à genoux avec son corps, mais à genoux dans son âme, mais l'expérience totale de l'Évangile ne s'explique que si finalement on admet, comme l'ont fait les apôtres, que c'est dans l'excès de son humanité qu'il a manifesté sa divinité. Il y a un excès de son humanité, hein, vous allez voir. Hein. Il s'est pas montré plus Dieu en se faisant moins homme. C'est en se montrant homme jusqu'au bout qu'il a montré qu'il était Dieu. C'est ça l'affaire quand on lit bien l'Évangile et qu'on s'attache à Jésus. Non, je pense que saint Jean a voulu nous faire comprendre cela quand au début du chapitre 13 là, de son évangile, il nous dit que Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Telle est la voie du christianisme. C'est là le christianisme. C'est ça Noël aujourd'hui. C'est en cela qu'elle transcende les autres voies, cette voie-là. Parce que les autres voies n'ont pas comme clé de toute chose, l'incarnation. Plus le Christ se montre homme, plus il aime. Plus il se donne, plus il meurt en son humanité pour ceux qu'il aime. Il meurt dans son humanité pour ceux qu'il aime, et plus il se manifeste Dieu. Il est impossible ici de pousser cet argument dans toutes ses implications. Bon, c'est bien. Mais je vais développer ça avec le père Yves Raguin, là. Simplement dans la ligne des relations humaines du Christ avec ses apôtres, ses amis les plus intimes. Tout l'Évangile est là pour nous montrer que le Christ, il a eu une très grande estime des relations humaines. Ah, qu'il avait des belles relations humaines. Mais là encore, faut pas nous leurrer puis penser que les sentiments du Christ Jésus étaient humains dans tous les sens où les nôtres le sont. Hein. Il n'y a en lui rien de ce qui fausse nos affections et les rend parfois si troubles. Hein. Parce que chez lui, tout est clair, tout est pur en lui. Il aime, un point, c'est tout. Nous autres, on aime parce qu'on attend quelque chose, on aime, mais... On a donc de la misère, moi le premier, à aimer vraiment. Mais lui, il aime vraiment. Le Christ avait dans son entourage immédiat ses apôtres et ses disciples. Mais un groupe de femmes les accompagnait, puis Jésus avait beaucoup d'autres amis, et des amis eux aussi, qu'il retrouvait au hasard de ses voyages, de ses petits voyages ou ses grands voyages. Et parmi ses intimes, il y avait des femmes, oui, dont les plus connues sont les deux sœurs Marthe et Marie. C'était extrêmement révolutionnaire à son époque, ça. C'était un féministe avant la lettre, dans un sens. Et nous savons que le Christ les aimait, tout comme il aimait Lazare, leur frère, et la liberté spirituelle du Christ a donné à ses relations humaines un ton particulier. Hein? Car son amitié, dans sa profondeur humaine, ça révélait quoi? Ça révélait en même temps le mystère de Dieu. Car Jean, on le sait, était celui que Jésus aimait, et cette relation très personnelle lui a permis, lui, de saisir dans la vie du Christ là, des aspects que les autres évangélistes n'ont pas su découvrir de la même manière. Hein? Ah, saint Jean, il recevait des témoignages d'affection, lui, mais ces témoignages étaient pour lui éclairés, non pas par la psychologie ordinaire, là, mais c'était éclairé par une intuition spirituelle qui venait, elle aussi, du cœur du Christ qui l'aimait. Et c'est par l'amour, c'est que l'amour est sa propre lumière. Toute l'aventure spirituelle de saint Jean est expliquée au début de sa première épître. Hein? Oh, c'est si beau. Quand il présente l'expérience de ceux qui ont connu Jésus, hein? Ah, nous vous écrivons. Au sujet de la parole de vie, Jésus, qui était dès le commencement de toute chose, nous l'avons vu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons contemplé. Nos mains ont touché le Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage, continue Saint Jean, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. C'est précisément cela que le Christ a voulu amener ses disciples, leur faire reconnaître son identité avec le Père, dans l'expression humaine quotidiennement vécue de cette relation. Il a voulu les mettre en face de sa vraie profondeur. C'est quoi la profondeur du Christ? C'est d'être un avec son Père. Et c'est ça encore Noël pour nous qui le savons, qui le croyons. Il faut admettre que le Christ a rarement fait profession, clairement, là, de sa divinité. Mais il y a un passage dont le sens ne peut avoir aucune ambiguïté, je pense. Jésus veut faire comprendre qu'il est l'égal du Père. Là. Les Juifs comprennent bien ce qu'il veut dire, puisqu'il l'accuse de blasphémer en se disant fils de Dieu. Souvenez-vous, le Christ prononce une phrase décisive. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Dire de lui-même « je suis », c'est prendre la définition de Dieu dans l'Ancien Testament. Hein, vous le savez, ça. Dire « je suis », quand on est un homme, avec les pieds sur la terre, c'est un blasphème épouvantable. Et en disant de lui-même « je suis », il emploie le thème par lequel Dieu donc s'est présenté à Moïse. Hein, c'est ça. Et c'est en pensant à cette profondeur extrême, cette profondeur ultime qu'il faut interpréter un grand nombre de passages de cet évangile qui nous conduisent dans la même direction du « je suis » puis de l'affirmation de sa divinité. La plupart des textes dus à Jean restent par contre à mi-chemin de la révélation finale. Les affirmations que Jésus fait, le Christ, ça laisse ses auditeurs en suspens. Et ses adversaires lui disent, il dit, si tu es le Christ, dis-le donc clairement. Il aurait beau répondre clairement, il sera compris de manière différente par ceux qui sont contre lui et ceux qui sont pour lui. Et parmi ceux qui croient en lui, il y aura toute une gamme d'engagement et de confiance en ce qu'il dit. L'accès à l'intelligence en profondeur qui m'a échappé, moi, pendant 5 ans, mais ça suppose quoi? Une confiance et finalement un acte de foi. Le jour où cela m'est arrivé, là, moi, ça a été comme une illumination, un éblouissement. Oh, le Christ ne veut pas employer d'arguments péremptoires, non, il invite à entrer à sa suite dans son mystère. Mais il ne force personne, moi, il m'a jamais forcé. Et ça a été très doux. Jean a suivi le Christ aussi profondément qu'il pouvait, c'est pourquoi il a pu décrire son expérience dans sa relation humaine au Christ. Il a touché, dit-il, le Verbe de Dieu. Et nous, c'est ce que nous faisons à la messe. Nous touchons le Verbe de Dieu. Et nous nous unissons à lui. Et nous plongeons dans les bras du Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Ah, puisque la relation humaine apparaît actuellement comme un moyen privilégié de la découverte de Dieu, nous pouvons bien regarder dans cette perspective un des plus beaux passages de l'Évangile de Saint Jean. C'est le récit du lavement des pieds, là au chapitre 13. Hein? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. Et ce qui fait ensuite se trouve ainsi rapporté à la relation d'amour qui l'unit au Père. Et cette relation s'exprime comme comment? Dans l'amour qu'il va témoigner aux siens. Et ce qu'il est venu apporter, c'est en effet l'amour du Père manifesté dans ses actes quotidiens de l'existence, hein? Les actes quotidiens de l'existence, comme nous l'a si bien enseigné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jésus accomplit donc pour eux un acte. Vous savez, c'est pas un acte extraordinaire qu'il a fait, c'est un acte habituel dans leur milieu, quelque chose de très ordinaire. Celui qui reçoit, dans ce milieu-là, dans ce temps-là, lave les pieds des invités. Tous acceptent, car ils n'y voient qu'un acte que tout autre doit accomplir. Mais Pierre, lui, qui se voit dans une relation de disciple à son maître, il refuse. Et Jésus lui explique que sans cela, il n'aura pas de part avec lui. Et Pierre comprend alors que l'acte de Jésus à son égard l'ouvre sur une relation d'amour entre le Père et le Fils, une relation dans laquelle l'homme est inclus. Il accepte que Jésus lui lave les pieds. Comprenez-vous ça avec votre cœur? Et c'est dans son geste de serviteur que le Christ se révèle maître de maison, dans la maison du Père. Immédiatement s'ouvre pour nous à tous les horizons de la miséricorde divine qui nous donne part à sa sainteté. Une question qu'un journaliste demandait à Alain Besançon, cet homme que j'ai déjà connu en France, un catholique remarquable, on lui demandait « Qu'apporte le catholicisme à la vie intellectuelle ?» Puis il avait dit presque rien. L'Église n'a pas compris que le catholicisme est une religion savante. Si on la prive, écoutez bien ça, de son élément rationnel, elle se décompose rapidement dans la barbarie. Dans ce piétisme extrêmement vague que nous voyons aujourd'hui, c'est dans ce but-là, j'essaie de vous aider, vous aussi, et de m'aider en moi-même en même temps à mieux aimer Jésus, à mieux aimer l'Église, en réfléchissant avec le père Yves Raguin, qui nous dit à un moment donné que, après le lavement des pieds dont je viens de vous parler, que le Seigneur Jésus, le Christ, a demandé à ses disciples de faire de même pour leurs frères. Et c'est ça qu'on fait à Noël, on s'occupe des pauvres. Hein? Et c'est en effet dans le don total, cependant, de leur vie, au service des autres, que les hommes vont découvrir la grandeur de l'amour que le Christ est venu nous révéler. Saint Jean avait ainsi saisi que dans l'amour pour les autres se révélait l'amour du Père pour nous. Et c'est pourquoi il ne cessait de répéter « Aimez-vous les uns les autres ». C'est ça que ça veut dire « Aimez-vous les uns les autres ». Dans des gestes d'homme, l'amour infini de Dieu se donne. Et c'est toute cette expérience que Saint Jean a résumée dans les premiers versets de sa première épître que je vous ai cité tout à l'heure. Il a rencontré, entendu, je vous le rappelle, il a vu, il a touché, il a aimé un homme. Et dans cette expérience, il a rencontré, entendu aussi, il a vu, il a touché, il a aimé le Verbe de vie, car ce Fils de l'homme était le Fils de Dieu. Aimer Dieu. On peut faire un pas de plus dans la connaissance du Christ. En l'écoutant nous parler de son Père, cette révélation faite par le Christ de sa relation au Père a été fondamentale dans l'expérience de ses humbles apôtres. Ça a été au cœur de ce qui en a fait vraiment des apôtres. Et nous ne serons nous-mêmes des apôtres que si nous sommes touchés jusqu'au fond de notre cœur de ça. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup ici au Québec qui ont été touchés. On les a entendus sur les ondes de Radio Ville-Marie, des apôtres, des grands apôtres, près des pauvres, près de tous. Les apôtres, ils avaient de par leur formation religieuse dans le judaïsme une image du Père qui était manifestée comment? Dans et par la loi. La loi, la loi, la loi. On a la même chose chez les musulmans. J'ai des amis musulmans, c'est les lois, c'est pas possible ce qu'ils insistent là-dessus. Ils lisent même les étiquettes des boîtes et des choses qu'on veut leur servir à table. Au cas où il y aurait quelque chose qui pourrait déplaire à Dieu. Le Christ est venu briser, lui, ce miroir qui leur présentait cette image du Père. Et ainsi, peu à peu, il les a fait passer de la contemplation de cette image-là à une nouvelle intuition de la réalité du Père. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Souvent, l'image du Père empêche de saisir la réalité vivante de la paternité même. Hein? On a une image du Père, puis quand on dit notre Père, On voit quelqu'un qui n'est pas très agréable. Et le Christ n'a donc pas présenté aux apôtres un portrait de son Père. Il les a peu à peu, lui, éveillés à l'intelligence de sa relation avec lui. C'est là qu'on découvre le Père. C'est en regardant la relation de Jésus avec son Père. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. C'est pour ça qu'il est né. Pour ça qu'il est venu ici. Et quand Philippe lui dit, vous vous souvenez, « Seigneur, montre-nous le Père. » Cela nous suffit. Jésus lui répond, oh, « Voilà si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » On voit donc, par sa réponse, que Jésus veut enlever à ses apôtres toute image du Père, toute représentation qui pourrait satisfaire leur esprit, mais leur ferait perdre de vue l'essentiel. Car c'est au cœur même de la connaissance qu'ils ont du Christ que se révèle le Père. Si on connaît Jésus, si on a appris à l'aimer, dans son cœur, on trouve le Père. La vérité de leur connaissance du Père est donc liée à la connaissance qu'ils ont du Fils. Et Jésus les arrache de la contemplation d'une image là, pour les introduire à une expérience de la réalité vitale de la paternité. Et cette expérience, ils peuvent la faire comment? Qu'en saisissant en eux la force de la vie divine qui les a fait fils dans le Fils. Quand on découvre la force de notre baptême, la force du sacrement de la réconciliation, la force du sacrement de la confirmation, la force de l'Eucharistie, de la vie divine qui fait de nous des fils et des filles dans le Fils, nous devenons des enfants de Dieu, notre Père, et nous comprenons tout son amour. Peu à peu, d'ailleurs, dans l'esprit des apôtres, s'est fait jour une intuition indéfinissable. Ils entrevoient que la relation de Jésus à son Père est telle que lui seul peut se glorifier d'une telle relation. Et c'est ainsi que le Christ grandit dans leur pensée et que la pensée se pose de sa filiation divine. Mais ce qui leur fait prendre conscience de cette réalité, ce ne sont pas tant les miracles que le témoignage intérieur donné par le Père. Et finalement, le Christ leur fait comprendre qu'il est de Dieu d'une manière telle qu'il est Dieu. Et c'est cette expérience que les évangiles nous présentent. Et la question est ainsi posée à tout homme, à toute femme qui rencontre le Christ. Ah, rencontrer le Christ qui nous est donné aujourd'hui. Beaucoup sont prêts à reconnaître que Jésus est Dieu. Mais ils ne désirent pas avoir à en dire davantage. Et cette attitude est humainement sage, parce que le mystère de l'homme-Dieu, personne ne peut l'expliquer. Penser de l'avoir expliqué, c'est montrer qu'on n'y a rien compris. Hein? Mais j'ajouterais que tout en reconnaissant que nous sommes devant un mystère, il faut que celui-ci prenne pour nous, oui, pour nous tous, toute sa force de mystère divin et qu'il nous mette dans une attitude de révérence et d'adoration. C'est le jour où on se jette à genoux, où on plonge, comme j'ai fait, que tout s'illumine. Et nous devons suivre le Christ dans la démarche qu'il veut nous faire faire. Mais quelle démarche? Mais tout en se désignant lui-même comme le Fils de l'homme, il ne cesse d'exprimer en acte et en parole une relation intime à un autre qu'il appelle son Père. Il l'appelle même Papa. 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 C'est dans son intention. Il désire que ceux qui l'entendent reconnaissent en ce Père celui-là même que les Juifs reconnaissent comme leur Père qui est dans les cieux. Mais le Christ est venu chez nous comme un homme. Mais dans sa condition d'homme, il révèle un autre abîme qui échappe à notre emprise. Et que le Christ soit l'homme parfait, qui soit l'ultime profondeur de la nature. Amen, c'est évident ça. Mais il est plus profond que son humanité. et sa profondeur de personne divine dépasse sa condition d'homme, de toute la profondeur du divin. La profondeur du divin est sans fin. Il ne faut pas essayer de se représenter les choses comme si à un certain moment de profondeur, il y avait une sorte d'immense fossé entre l'humanité et la divinité de Jésus. Non, non, le Christ n'est pas comme ça. Les images font toujours mal quand on est dans ces domaines-là de l'incompréhensible. Je vous aventure dans des drôles de dédales en ce jour de Noël, mais il faut savoir qui est Jésus-Christ si on veut le fêter comme il faut, si on veut marcher avec lui jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension, jusqu'à la Pentecôte. Il faut dire ceci, en profondeur, cet homme est Dieu. Il est Dieu, et nous savons qu'il agit, et comme Dieu, et comme homme. Et quant à exprimer ce qu'il est, le Christ le fait comme il le peut en langage humain, mais finalement, celui qui vit sa foi comprend par là, par-delà les paroles, hein, comme les apôtres, comme tant de gens dans notre Église, depuis 2000 ans, et toujours, et encore aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, après avoir posé quelques jalons du mystère, il nous faut, à nous, par la foi, essayer d'en atteindre le cœur. Mais jamais n'y parviendra celui qui a peur des profondeurs. Il faut sauter, comme je vous ai dit, il faut plonger. Il n'y a dans le Christ qu'une seule personne. Nous l'appelons le Verbe, nous l'appelons aussi le Fils. Peu importe le terme pour le problème qui nous intéresse maintenant. Quand nous disons que le Verbe s'est fait chair, ou qu'il s'est fait homme, nous ne devons pas nous représenter ce Verbe prenant une humanité pour s'en couvrir et paraître ainsi l'un d'entre nous. Il ne manœuvre pas cette humanité comme on ferait d'un robot, pas du tout. Un robot qui lui ferait opérer des actes de valeur divine. Écoutez bien, en se faisant homme, le Verbe a réalisé une assomption personnelle de l'humanité. Cette humanité n'est pas simplement, comme pour tout homme, participant de la nature divine, elle est l'humanité du Verbe de Dieu. C'est très important, hein? Une telle relation par assomption personnelle n'existait pas avant l'incarnation. C'est tout nouveau, ça, ce qui arrive aujourd'hui, qu'on célèbre après 2000 ans, probablement 2000 ans justement cette année, puisque le Christ est né vraisemblablement 4 ans avant notre ère. Puis nous sommes en 96. C'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, l'union hypostatique. Les plus vieux, on se souvient de ce mot-là, très difficile à comprendre. Hein? Mais c'est ça, l'union hypostatique. Plus nous essayons d'être fidèles aux indications que le Christ lui-même nous donne au sujet de sa relation à son Père, c'est-à-dire à Dieu, plus nous devenons conscients d'être entraînés dans le plus pur mystère, qui est le mystère que contemplent les moines et les moniales, comme les ermites de Chersey dont je vous ai parlé hier. Nous avons l'impression que notre mode humain de connaissance, il va éclater si nous acceptons la simple hypothèse là, de la filiation divine puis de l'incarnation. Quand on pense au Christ comme ça, on a l'impression que notre cerveau va éclater. Mais quand il s'agit de réalité qui dépasse l'homme, la probabilité est en faveur de l'impossibilité de comprendre. Dieu révèle des choses si belles que nous n'arrivons pas toujours à les comprendre, évidemment. Et étant donné ce que nous sommes, les réalités fondamentales ne peuvent pas ne pas être des mystères. Mais ce qu'il faut, c'est les accepter sur le témoignage de quelqu'un qui nous fait comprendre que nous avons de bonnes raisons de le croire. Et ça, c'est finalement le summum de la sagesse humaine. Et moi, je crois Saint Jean. Oui, je le crois et je l'aime. Or, je prétends pas que les problèmes soient tous résolus qui ont trait à la relation de Jésus avec son Père. D'ailleurs, quand sa mère lui reproche au temple, vous vous souvenez de ne pas les avoir suivis, elle et Joseph, là, il y a 12 ans, pour entrer à Nazareth, hein, qu'est-ce que Jésus, à 12 ans, leur répond? Il dit, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? » Et l'Évangile nous dit que ses parents ne comprirent pas. Mais sans dire sur quoi portait l'incompréhension, eh bien, Marie et Joseph, humblement, se sont mis une fois de plus en face du mystère de l'enfant, de cet enfant. Et dans l'esprit des disciples, la distinction entre la relation exprimée par les mots « notre Père » et celle qui est exprimée quand il dit « mon Père », ça a dû s'éclairer lentement, ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, et pour nous non plus, nous sommes comme les disciples, hein. Jésus passe de l'un à l'autre, et tantôt il se met avec ses disciples pour dire « Notre Père », tantôt il dit « Mon Père ». Mais dans le dernier cas, le « Mon Père », il est clair que les disciples le suivent de loin et perdent très vite pied dans un mystère qui est le mystère d'une relation qui les dépasse. Pour eux, la première relation, Jésus peut la partager avec ses amis, notre Père. Mais l'autre, lui, est proprement personnel quand il dit « Mon Père ». Et on comprend pourquoi ceux qui écoutaient Jésus et essayaient de le suivre sur son propre terrain finissaient par dire « Mais qui est cet homme ?» Et c'est ça la question. Qui est Jésus-Christ? C'est le titre de cette émission aujourd'hui. Et quand, après une longue discussion avec les Juifs, il lâche la phrase décisive, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il les envoie rêver au-delà, par-delà tous les temps. Il y a une profondeur qu'ils ne peuvent plus sonder, malgré toute leur science des saintes Écritures. Il affirme qu'il est « Je suis » comme Dieu lui-même. Adorons-le quelques instants. Si on prend l'ensemble des textes, surtout dans Saint Jean, par lesquels les Évangiles nous manifestent qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que la réalité de l'être du Christ, il semble bien difficile pour nous, en 1996, de le considérer simplement comme un homme aimé de Dieu, quand on y pense sérieusement, en qui Dieu s'est tellement complu qu'il l'a élu pour être son fils un bon jour. Certains textes peuvent s'interpréter ainsi peut-être, mais, quand il n'y aurait qu'un seul endroit où l'Évangile nous manifesterait la profondeur divine du Christ, c'est la lumière de ce texte qu'il faut interpréter tous les autres. C'est là que moi, je me dirige. C'est malheureusement là que les témoins de Jéhovah refusent d'aller, eux qui nient la divinité du Christ. Si l'Église a formulé comme elle l'a fait le mystère de la Sainte Trinité et la place du Christ dans ce mystère, c'est qu'elle ne pouvait faire autrement si elle voulait être fidèle aux données des Évangiles et des Écritures. Des paroles et des actes du Christ, l'Église ne pouvait pas tirer une conclusion différente que celle-ci. Le Christ est le Verbe de Dieu fait chair. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. C'est bien beau de célébrer une petite poupée, un petit enfant, etc., les mages, etc. C'est très beau, je ne suis pas contre, loin de là. J'ai même une crèche ici. Mais ce qu'on célèbre d'abord, c'est que le Christ est le Verbe de Dieu fait chair. Dieu de Dieu, Fils du Père, et en tout égal à lui. Il le demeure dans son incarnation. Que ce soit un mystère, l'Église le sait bien. Mais elle y tient. L'Église, surtout l'Église catholique, elle y tient par honnêteté à l'égard du Christ. Il ne faut pas croire que ce soit des théologiens qui étaient imbus de philosophie greffe, qui ont imaginé la Trinité pour satisfaire des désirs de spéculation intellectuelle, comme on dit des fois. Bah, la Trinité est aussi loin des conceptions grecques que de la pensée indienne ou de la pensée chinoise, là. Des générations de chrétiens ayant vécu le ministère trinitaire au plus profond d'eux-mêmes, comme le Christ l'avait suggéré, ils ont désiré en donner une expression. Et ce sont des chrétiens devenus théologiens qui nous ont formulé le mystère, et je les remercie. S'ils pouvaient revenir en ce monde, ils nous diraient « Que faites-vous là, à perdre votre temps, à nous blâmer d'avoir fait quelque chose qui devait être fait ?» Revivez le mystère, trouvez-lui une expression pour les temps modernes, et laissez-nous donc en paix. Surtout, n'essayez pas d'échapper à la réalité que le Christ a vécue au jour de sa vie mortelle. La réalité que le Christ a vécue au jour de sa vie mortelle, c'est ça. Le Christ a, par ses paroles et son comportement, fait éclater la notion de Père, commune dans la tradition juive. Celui que les Juifs appelaient leur Père était Dieu, le Dieu unique dans son unicité. C'est toujours comme ça aujourd'hui. C'est ce que les musulmans apparu au 7e siècle de notre ère, ils pensent comme ça, ils ont emboîté le pas des Juifs. Or, voici que le Christ révélait une autre paternité, lui, interne celle-là au mystère divin. Et ainsi, a été révélé au monde. C'est ça que nous avons reçu, nous, chrétiens. C'était révélé au monde, ce que nous pouvons appeler l'intérieur de Dieu. C'est ça, Noël. Et le Dieu de l'Ancien Testament s'était révélé dans une histoire, c'est sûr. Et c'est du fond de cette histoire que Dieu semble surgir. Bien que ses paroles soient entendues comme venant d'en haut. Et quand le Christ vient nous révéler son mystère, eh bien, ce n'est plus tant d'une histoire que d'une personne que jaillit la lumière. La lumière, elle ne jaillit plus de l'histoire, elle jaillit de son cœur. C'est en écoutant Jésus parler que peu à peu la vie intime de Dieu nous est apparue. Comme je dis, pourrait dire tripolarisée par l'action de trois personnes qui sont les trois sujets en même temps que les trois pôles de l'activité divine. Ces personnes, en se révélant, ont en même temps, ils ont remis en lumière l'unité substantielle de Dieu. C'est ça la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Et l'étonnant de cette histoire, c'est qu'à partir d'un langage humain, nous avons été amenés aux limites de l'inconnaissable, aux douces fois que la nôtre, aux grandes fois. Et ce même langage humain, dans son insuffisance, nous a lancés au-delà de lui-même. Or, c'est sur cette lancée, amorcée par le langage, que la contemplation prend son envol. Quand on contemple la Trinité, oh, le cheminement qui mène aux profondeurs de Dieu passe ici, comme toujours, par les profondeurs de l'humain. C'est inexprimable. Mais c'est précisément dans l'apparente contradiction du langage que peut s'introduire la connaissance de foi. En vouloir tout réduire à ce qui est intelligible et qu'on peut comprendre, c'est à la fois être fidèle à la réalité, c'est aussi s'interdire tout progrès dans la connaissance de l'au-delà, de cette expérience purement humaine, dans la manière qu'a Jésus le Christ de nous initier au mystère de Dieu. Tout est simple, car il a pris le chemin de la pure humanité que nous célébrons aujourd'hui. Il n'a pas essayé de nous éblouir par l'éclat de sa pensée, il a conduit l'homme et la femme par la main sur le chemin de sa propre profondeur humaine. Et sur ce chemin, il pouvait se montrer dans toute la vérité d'une relation fraternelle. C'est de là qu'il a essayé de faire comprendre ce que pouvait être sa relation à celui qu'il appelait son Père. Et ceux qui ont bien voulu le suivre comme nous, nous voulons le suivre, eh bien, ils ont finalement débouché sur le mystère intérieur de Dieu. C'est ce qui fait les contemplatifs, et nous devons tous être à nos moments contemplatifs, assis dans une de nos églises, contemplant, assis chez nous ou à genoux. Il est difficile de qualifier en quelques phrases comment ce mystère est apparu aux apôtres, mais cependant Saint Jean peut nous y aider. Hein? Le mystère de Dieu nous apparaît d'abord comme une relation. Bon, c'est en effet dans une relation au Fils que le Père nous est présenté. Il nous est ainsi montré comme celui dont le Fils tient tout ce qu'il est et à qui il se réfère pour tout ce qu'il fait. Et dans cette relation, ben, le Père se manifeste bien vite comme le pôle fondamental, originel. Puis sort de l'ombre le troisième terme de la relation qui est le Saint-Esprit. Alors on est rendu au but et le mystère de Dieu apparaît comme une vie totale, complète, qui s'embrasse elle-même sans fin. Et hors de toute mesure, ô Trinité Sainte, amour sans fin, embrassement éternel. Or, c'est là ce qu'on appelle aussi l'amour, car l'amour, c'est la vie. Non plus solitaire, mais solidaire, dans le don total qu'elle fait d'elle-même. Dieu est vie, Dieu est amour, et en conséquence, il est lumière, car l'amour est clarté. La lumière, c'est le jaillissement de la compréhension mutuelle, c'est le jaillissement de l'intelligence de l'autre. Cette lumière jaillit du don de la vie dans l'amour. Voilà ce à quoi le Christ a voulu convier ses amis, en leur révélant qui il était. Pour ce qui est de la connaissance de Dieu, on en revient toujours au principe si souvent exprimé par tous les chercheurs de Dieu que nous sommes, je l'espère, dans toutes les religions. Hein? Écoutez bien, seuls les cœurs vides peuvent saisir l'immensité de Dieu et percevoir sa profondeur. vivant nos cœurs de nos attaches idiotes et laissant Jésus nous pénétrer de toute cette révélation. Ô Jésus, alliance nouvelle, Jésus, notre paix, pardon pour nos péchés, tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Jésus, le saint et le juste, ô Jésus, le Messie, Jésus, l'Emmanuel, Jésus, chemin vers le Père, Jésus, notre vie et notre vérité, oh, tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Jésus, le Fils de Marie, Jésus le Sauveur, Jésus le Fils de Dieu, tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie.